Bonjour, bien aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin parce que à la Baule le 5 mai prochain il y a la Bitcoin Ference organisée par Laurent Sarveur, il est avec nous dans le studio. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Et puis également avec nous en ligne Pierre Noisa, il est cryptographe expérimenté et cofondateur de Paymium. C'est la plus ancienne, donc la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Bonjour Pierre.
Bonjour Yannick.
Alors Pierre, Bitcoin Ference a lieu à la Baule, exposition de NFT, des conférences, on va découvrir ce que cela signifie. Alors Pierre, on va faire un peu d'évangélisation, hein, je vous propose, on va peut-être commencer. Tout le monde sait ce qu'est le Bitcoin, bien sûr, c'est cette monnaie numérique en quelque sorte. On appelle le Bitcoin parce que c'est la plus connue des monnaies, derrière ça s'appelait la Bitcoin Ference, mais vous auriez pu l'appeler l'Ethereum Ference, parce que en réalité, la monnaie, dans cette monnaie, comme il y a le dollar, l'euro, le yen, etc., il y a le bitcoin, l'Ethereum, etc. Vous avez pris ce nom parce que c'est la plus connue, est-ce que c'est ça?
Alors c'est ça, effectivement, et puis c'est aussi la première, c'est-à-dire qu'on a effectivement réservé ce nom de domaine il y a maintenant un certain temps, avec l'idée d'évangéliser, je crois que le mot est juste, faire de la pédagogie en tout cas sur ces nouvelles monnaies. Mais effectivement, il y en a d'autres. On va se focaliser sans doute sur Bitcoin et sur les NFT à cette conférence, mais on parlera aussi des autres pour mémoire. Il faut savoir qu'elles ont chacune des caractéristiques quand même particulières, de même que l'euro a des caractéristiques particulières. On peut envisager l'euro aussi comme une monnaie numérique un peu particulière, parce que à la différence des autres, on est obligé d'utiliser l'euro, alors qu'on n'est pas obligé d'utiliser Bitcoin et les autres nouvelles monnaies. Mais toutes les monnaies aujourd'hui au XXIe siècle sont numériques, et elles sont plus ou moins décentralisées. Alors Bitcoin a la particularité d'être la monnaie qui est sans doute la plus décentralisée, c'est-à-dire qu'elle échappe à tout contrôle, ce qui évite évidemment, ce qui simplifie évidemment sa gouvernance et qui aussi évite les abus éventuels par ceux qui contrôleraient la monnaie.
Oui, vous parlez de l'État, hein, on est dans une philosophie libertarienne, Laurent.
Ah oui, tout à fait.
Alors, en l'occurrence, je parlais plus des banques parce que les États, à mon avis, sont plutôt aujourd'hui dans une position de clients des banques, puisqu'ils s'empruntent, vous le savez, auprès des banques, même là, auprès de la Banque centrale, qui est censée être d'ailleurs indépendante des États. Donc on ne peut plus dire que les États contrôlent la monnaie, ils contrôlent la demande de monnaie, ça c'est vrai, puisque c'est eux qui en demandent pour financer leur politique publique notamment, et puis ils contrôlent surtout l'obligation de l'utiliser, parce que c'est grâce à la puissance publique qu'on peut imposer la même monnaie à toute la population européenne, par exemple.
Laurent, ajoute quelque chose?
Oui, alors je vais déjà ajouter par rapport au préalable à ton introduction, qu'effectivement c'est donc un événement qu'on co-réalise, j'allais dire, avec Pierre, parce qu'effectivement j'ai rencontré Pierre maintenant il y a à peu près un an et demi. C'est vrai qu'il est vraiment le précurseur français du Bitcoin, pour avoir créé Paymium maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc effectivement, il m'a semblé intéressant d'introduire une première, alors on a appelé ça BitConférence, c'est un tout petit peu peut-être surdimensionné pour cette première édition, puisque effectivement ça va plus ressembler à une table ronde dans son premier format, où effectivement il y aura donc Pierre qui va accompagné de Sébastien Gouspillot, qui est également un expert français du minage. Alors ça, c'est aussi un terme lié à la blockchain et au Bitcoin.
Que les écolos n'aiment pas.
Oui, alors ça, je pense que Pierre aura...
Ça consomme
alors,
beaucoup.
Pour le coup, justement, Pierre aura et Sébastien auront beaucoup d'arguments contraires à exposer par rapport à ça. C'est intéressant. Ce sera un des sujets, d'ailleurs, très intéressants. C'est effectivement l'énergie et comment, effectivement, ces bitcoins sont minés, mais comment également il y a des aspects très, très positifs. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement d'avoir une première édition où on va présenter, exposer un certain nombre d'éléments d'information, d'échanges sur, effectivement, Bitcoin, sur, effectivement, Ethereum, les autres monnaies, les NFT, tout ça autour d'un format de 2 heures qui va également donner beaucoup accès au public qui sera présent au Gulfstream pour poser des questions à ces experts.
Alors Pierre, est-ce qu'on peut résumer, là, déjà pour ceux qui nous écoutent qui sont novices, il y a la valeur du Bitcoin, la valeur de toutes ces monnaies, elles sont des monnaies totalement privées. Hein. Il y a une valeur parce qu'elles ont été limitées dans le temps. Elles ont été limitées. On ne peut pas en produire d'autres. Donc, c'est ce qui crée de la valeur. On va dire comme une pierre précieuse, comme de l'or, Pierre. Je parle sous votre contrôle. Si je dis une bêtise, vous m'interrompez. Hein.
Non, mais c'est Laurent.
Voilà, c'est une valeur. Exact. C'est parce que c'est limité.
Il y a 21 millions potentiellement. Enfin, si on parle du Bitcoin, c'est donc 21 millions. Voilà. De Bitcoin maximum qui circuleront dans le monde. On est, je crois, Pierre, à 19 millions à peu près en ce moment, dans ces eaux-là, hein, je crois.
Enfin, qui ont été... à peu près, oui.
Voilà, à peu près 19 millions, donc on n'est pas encore au nombre maximum de Bitcoin en circulation. Et c'est ce qu'en fait un peu une valeur, entre guillemets, refuge, ou qu'on peut comparer à l'or, en fait, entre guillemets, puisqu'effectivement, c'est la monnaie la plus connue et la plus sécure en termes de technologiquement parlant.
Et l'autre point, je parle toujours sous votre contrôle, ce qui fait la sécurité, la garantie de ces monnaies numériques comme le Bitcoin, Pierre, c'est que ça passe par ce que l'on appelle la blockchain, qui est, je vais résumer ça de façon très simple, c'est une sorte de système informatique, c'est comme si vous alliez chez le notaire. Voilà, c'est-à-dire si vous avez votre cahier de propriété, votre titre de propriété entre deux particuliers, ça vaut pas grand-chose, ça vaut que ce que ça vaut vis-à-vis d'un tribunal. En revanche, ce titre de propriété, quand il est chez le notaire, là, il est vraiment validé ainsi, c'est incontestable. Et la blockchain, c'est une sorte de notaire des transactions. Est-ce que c'est ça aussi?
Alors oui, on peut le voir comme ça. C'est d'abord, en ce qui concerne Bitcoin, c'est d'abord un réseau qui est opéré par ses utilisateurs, donc un réseau en mode coopératif. Hein. Et effectivement, il a cette particularité que chaque Bitcoin en fait représente une chaîne de signature depuis son origine. Donc tout ça est vérifiable. Donc effectivement, dans ce sens, comme chez un notaire, on a une chaîne de signature quand on achète une propriété immobilière entre toutes les transactions qui ont touché cette propriété, ben dans le cas de Bitcoin, c'est pareil. Il y a une chaîne de signature qui la rattache à la création monétaire, au protocole de création monétaire qui, comme l'a souligné Laurent, est limité à 21 millions. Donc il y a cette certitude liée à la signature électronique qui est la technologie de base de tout ça. Alors après, ce qui se passe avec Bitcoin, c'est qu'il y a effectivement une contrepartie énergétique à la création monétaire. Puisque les mineurs Bitcoin, donc qui seront représentés par Sébastien Gouspillot à la conférence, ont pour rôle donc de valider les blocs en produisant une preuve, ce qu'on appelle une preuve de travail, donc qui prouve qu'il y a une contrepartie énergétique à cette création monétaire, contrairement, et là j'insiste là-dessus, contrairement aux autres crypto-monnaies qui elles sont créées sans contrepartie énergétique et donc en quantité potentiellement illimitée. Donc, on ne peut pas parler de rareté pour ce qui est des autres crypto-monnaies. Par contre, dans le cas de Bitcoin, il y a cette rareté liée à l'énergie. Alors l'énergie, effectivement, a été pointée du doigt par les écologistes, mais comme souvent pour les écologistes, ils ont fait un raisonnement faux qui consisterait à dire que les mineurs Bitcoin utiliseraient l'électricité qui alimente votre studio, Yannick. Il n'en est rien. Ils vont chercher des surplus d'électricité et la production d'électricité génère énormément de surplus parce que l'électricité est difficile à stocker et à transporter. Donc, il y a énormément de surplus de production et les mineurs Bitcoin monétisent ces surplus de production. Donc, il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement. Au contraire, puisque les mineurs Bitcoin établissent comme ça un prix plancher pour les surplus d'énergie qui proviennent de production d'électricité renouvelable. Puisque dans le cas du fossile, il n'y a pas de surplus. On stocke les fossiles sans problème et il y a une demande très forte. Ils se transportent relativement facilement en baril. Les fossiles, il n'y a pas de surplus. Les renouvelables, il y a des surplus. Et les mineurs Bitcoin favorisent les renouvelables en établissant un prix plancher pour les énergies renouvelables.
Peut-être qu'effectivement, les écologistes confondent entre guillemets la problématique de l'énergie avec les GAFA et en particulier tous les serveurs dans le cloud, en fait, qui eux effectivement sont très 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 consommateurs d'énergie.
Mais, oui, mais enfin, ce sont les mêmes qui votent pas des subventions pour la marine à voile en disant qu'ils sont contre la pollution hein, dans des conseils municipaux, donc ils confondent beaucoup de choses, voilà, les écolos. On va aller dans un sujet sérieux, on va quitter les écolos maintenant. Évidemment, Pierre, Laurent, je vais pas à ma banque du coin, à la BNP, au Crédit Lyonnais ou à la Société Générale, à LCL, enfin, ou au CIC, enfin, peu importe, pour dire je veux acheter des bitcoins. Je m'adresse à des intermédiaires comme vous. Alors justement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le sénateur Hervé Maurey qui m'a dit, il a fait voter, ça a été un peu la bête noire de tous les opérateurs il y a quelque temps. Il a dit que la moitié, pratiquement, la Banque de France lui a dit que plus de la moitié des opérateurs, il fallait s'en méfier, qu'ils n'avaient pas suffisamment les reins solides pour mettre son argent. Que répondez-vous à cela?
Je laisse la parole à Pierre, parce que justement, c'est une des rares sociétés françaises, justement, qui est homologuée. Je te laisse la parole par rapport à ça.
C'est presque de la musique à nos oreilles, parce qu'effectivement, s'il y a des acteurs douteux, il y en a qui sont dûment enregistrés, notamment en ce qui nous concerne à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers. On est enregistré, on est audité aussi par la CPR, l'Autorité de contrôle
prudentiel.
Et à la Banque de France, exactement. On offre toutes les garanties possibles, je dirais, d'intégrité et en plus de longévité, puisqu'on est dans le business depuis maintenant plus de 10 ans. Donc oui, il y a des acteurs douteux, et je recommanderais effectivement aux auditeurs de se tourner vers des acteurs qui sont enregistrés à l'AMF, comme nous. Et pourquoi pas Paymium, la société que j'ai fondée.
Non, mais en plus, tous les acteurs vont être obligés d'être enregistrés. Hein, ceux qui ne seront pas enregistrés avec la directive européenne, dont j'ai plus le nom en tête, c'est en 2024, je crois, disparaîtront.
Oui, alors ça, c'est malheureusement pas forcément le cas, parce que le problème du régulateur, c'est qu'il régule chez lui. Il ne régule pas les plateformes offshore, et comme vous savez, sur Internet, on peut
aller... C'est un truc qui est à Hong Kong, on peut se faire avoir.
Voilà, rien ne vous empêche d'aller à Hong Kong, mais effectivement, à ce moment-là, c'est à vos risques et périls. D'ailleurs, c'est pas forcément Hong Kong, maintenant, c'est plutôt Belize, les Bahamas, des plateformes qui, d'ailleurs, ont eu des problèmes. On a beaucoup parlé récemment de FTX, qui était une plateforme dirigée depuis les Bahamas. Donc, je recommanderais aux auditeurs, effectivement, de se tourner vers des plateformes basées en France, comme Paymium, et pas vers des plateformes qu'on appelle offshore, qui échappent, justement, à la régulation souhaitée par le sénateur dont vous parliez.
Hervé Maurey, oui. Laurent ?
Eh bien, effectivement, je ne peux que aller dans le sens de Pierre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu l'exemple FTX, il y en a d'autres. Enfin, il y en a d'autres. Heureusement, il n'y en a pas encore beaucoup d'autres. Mais effectivement, la problématique, c'est une société qui est située dans un pays offshore non vérifié, non réglementé, forcément présente beaucoup plus de risques. Il y a effectivement la demande de preuves de dépôt pour effectivement savoir quand tu mets ton argent pour acheter des monnaies crypto. Est-ce qu'effectivement, en face... la société est de bonne foi, a bien conservé les stocs nécessaires, etc.
Donc, non, il n'y a plus rien, tout a disparu.
En l'occurrence, dans le cas d'FTX, effectivement, il y a quelques milliards, quelques dizaines ou centaines qui ont disparu, qui se sont évaporés. Donc oui, il faut évidemment investir sur des plateformes qui sont contrôlées, vérifiées, voilà, c'est évident.
Alors Pierre et Laurent, je voulais vous poser une question. Laurent, est-ce que... Vous avez des bitcoins, vous avez des monnaies numériques dans votre portefeuille?
Un tout petit peu, oui. D'accord. Un petit peu, absolument, oui.
Alors, ma question à Pierre, comment ça se passe? Je vais prendre un exemple. Si je veux acheter un peu d'or, si je veux acheter des devises étrangères, je vais chez un munismat, je lui donne X euros qui valent des pièces de dollars, d'euros, je peux garder au fond de mon tiroir, chez moi, ces pièces d'or. Et les transmettre, s'il y a un problème, je pars à l'étranger. Ma propriété, c'est le fait de les avoir physiquement. Si j'ai une action en bourse, j'ai des actions, peu importe, EDF, ou bien Casino, ou bien Carrefour, je suis inscrit dans le livre de compte de la société en tant qu'actionnaire. Comment ça se passe avec les cryptos? Voilà.
Alors... Concernant les cryptos, vous avez parlé de la blockchain, c'est exactement la même chose. Votre propriété est inscrite dans la blockchain et vous détenez une clé, ce qu'on appelle une clé privée dans le jargon de la cryptographie. C'est simplement un secret, comparable si vous voulez à un mot de passe fort. Et cette clé privée, vous la gardez précieusement sur un support. Alors ça peut être un papier dans une enveloppe scellée, ça peut être une clé USB, ça peut être différents supports. Vous pouvez d'ailleurs en faire des sauvegardes pour être sûr de pas la perdre. Et par contre, vous allez les mettre en sécurité, puisqu'effectivement, si quelqu'un accède à votre secret, ben, c'est comme si quelqu'un accédait à la clé du coffre-fort où vous gardez votre or. Donc c'est assez comparable, effectivement. La différence que je viens de souligner, c'est le fait que vous pouvez faire des sauvegardes, c'est-à-dire que l'or, vous avez qu'un seul coffre et s'il est ouvert, vous avez des difficultés. Avec Bitcoin, c'est relativement immatériel, c'est une information, donc ça peut se dupliquer et donc se sauvegarder, et vous pouvez aussi la cacher sans doute plus facilement qu'un lingot d'or.
Voilà, on peut parler aussi malgré tout des startups françaises comme Ledger qui a été une invention, enfin qui ressemble effectivement à une clé USB, qui a un portefeuille en hardware, qui a un portefeuille en fait de tes crypto-monnaies. Mais là aussi, il faut quand même faire attention et pas le perdre. Et tu parles par rapport aux sociétés et aux cours de bourse et aux sociétés codées et aux cours, c'est là l'intérêt des cryptos, c'est que effectivement il y a aussi une cotation, c'est en permanence 24h/24, 365 jours par an, t'as pas de fermeture comme à la bourse, une cotation et des valorisations permanentes. Donc il y a une liquidité énorme. J'ai pas en tête là ce que représente en volume. Pierre, tu as sûrement l'information.
C'est plusieurs milliards par jour,
par jour.
Qui s'échangent.
Donc oui, en fait, les volumes sont bien plus importants que sur les bourses classiques. Donc tu as une liquidité sur effectivement les. Alors plus ou moins, si tu vas sur des crypto-monnaies un petit peu alternative, t'en as des centaines, donc tu peux tomber sur des tokens, des valeurs qui sont, ou des tokens qui sont plus faibles en volume, mais sinon il y a autant d'avantages, entre guillemets, que sur des valeurs côté classique.
Alors Pierre et Laurent, moi je vais quand même poser une question. Moi, ce qui m'inquiète, parce que peut-être je suis le fruit d'une ancienne génération très matérielle, c'est de ne pas avoir ce sentiment de possession, pas simplement physique. C'est-à-dire que si vous avez un paquet d'actions Stellantis, vous les avez pas physiquement, vous êtes inscrit sur des livres de compte, mais vous suivez l'actualité du constructeur automobile. S'il vend beaucoup de voitures, il ouvre de nouveaux pays, vous êtes content, vous dites l'action va monter. Si ça se passe mal, vous pouvez interpeller la direction. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre vos décisions de vendre. Bon, je parle pas de la monnaie après physique, de l'or, évidemment, on l'a à côté de soi et dans son tiroir, on est rassuré. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus inquiet, ça casse un peu nos codes traditionnels.
Oui, alors, on peut, si on compare au marché action...
Bitcoin, c'était ce que je voulais dire, je vais pas voir Monsieur Bitcoin alors, en disant...
C'est sûr. Alors, d'un côté, ça peut paraître, c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il n'y a pas d'entreprise Bitcoin, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas d'entreprise Bitcoin qu'il n'y a pas de faillite possible. C'est-à-dire qu'en fait, là, on observe que la résilience d'un réseau décentralisé, on peut prendre l'exemple du web ou du courrier électronique, est juste extrêmement longue et sûre comparée à des entreprises qui peuvent faire faillite et disparaître. Donc ça, c'est le premier point, c'est que le réseau Bitcoin est là depuis 10 ans, se développe chaque année, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc la probabilité qu'un réseau décentralisé comme Bitcoin, encore une fois comparable de ce point de vue au web ou au courrier électronique, disparaisse. Donc
c'est très important.
Je pense qu'il y a moins de risques.
Ce que vous dites là, hein, c'est vrai, vous faites le parallèle avec Internet. Internet
oui.
ne peut pas
oui,
faire
oui.
ne peut pas faire faillite puisque par définition,
ne peut pas faire faillite,
c'est cette
et pourtant,
communication
y a pas...
par réseau, c'est par paquet.
Exactement, il y a personne, il y a pas d'entreprise, il y a pas
Internet,
d'entreprise
oui.
web, il y a exactement, il n'y a pas d'entreprise web ou d'entreprise internet, et c'est pour ça que c'est plus résilient qu'une entreprise, parce que c'est décentralisé, il n'y a pas ce qu'on appelle un seul point de panne, single point of failure en anglais. Donc c'est du point de vue de l'informaticien que je suis et du j'irais aussi de l'homme d'affaires, c'est plutôt un gage de résilience et de pérennité.
Ça veut dire que si par exemple l'organisme qui gère les noms de domaines comme l'ICANN, etc., cet organisme, ok, est privé, il y a des organismes privés qui le font, mais leur métier c'est simplement de traduire une adresse physique, une adresse IP. Voilà.
Ah oui.
Donc,
oui,
ils peuvent le faire de la même façon, c'est ce qu'il faut dire.
Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement des entreprises centralisées qui travaillent sur ces réseaux qui, eux, sont décentralisés, mais ça n'enlève rien au caractère décentralisé. Elles ne contrôlent pas réellement le réseau qui pourrait fonctionner effectivement avec d'autres organisations que l'ICANN. Donc, mais vous avez raison de souligner l'existence d'entreprises centralisées aussi dans ces écosystèmes plus largement décentralisé. Donc tout ça, c'est effectivement un gage de résilience. L'autre point, c'est quand vous achetez un Bitcoin, vous achetez en fait un droit d'usage de ce réseau. Alors quand je dis réseau, c'est une infrastructure en fait avec des ordinateurs, des câbles, des gens, des logiciels, exactement comme je dirais un Google ou Facebook. Ce sont des réseaux et des infrastructures informatiques aussi. Donc faut pas perdre de vue l'infrastructure qui définit le réseau, l'existence de ce réseau Bitcoin et qui est mondial aujourd'hui, qui, comme soulignait Laurent, fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc cette infrastructure, elle a une grande valeur en fait, une grande valeur d'usage. Et quand vous achetez un Bitcoin, vous achetez un droit d'usage de cette infrastructure. Donc c'est pas, comme je l'entends parfois, assis sur du vent, en tout cas pas plus qu'une action, un droit d'usage, en l'occurrence, il a une valeur qui est fixée par l'offre et la demande. Et aujourd'hui, comme je disais, il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, c'est en progression chaque année. Donc il n'y a pas, c'est ce que j'entends parfois, qu'il y a pas, sous prétexte qu'il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de sous-jacent, il y a un sous-jacent qui est un réseau décentralisé.
Oui, il y a en fait un autre aspect. C'est, effectivement, quand tu dis c'est un petit peu abstrait, il y a deux choses. Bon, il y a la partie blockchain, et là, effectivement, c'est un peu comme le début de l'Internet, c'est-à-dire que les usages se développent fortement. Il y a plein de sociétés qui ont utilisé la blockchain et les technos sous-jacentes pour effectivement développer des nouveaux services aujourd'hui qu'on n'utilise pas encore, mais qui seront demain effectivement utilisés dans plein d'univers, plein de sujets. Et le Bitcoin en lui-même, comme tu dis, aujourd'hui, c'est un peu abstrait parce que tu t'en sers pas pour acheter ton pain ou acheter ton lait. En revanche, effectivement, on se rend compte qu'au niveau mondial, il y a tout un tas de pays effectivement qui ont des problématiques de monnaie, des problèmes politiques, et des problématiques de monnaie qui valent rien, qui se dévaluent très vite. Et là, effectivement, dans ces pays-là, l'usage des crypto-monnaies...
Bientôt l'euro, peut-être.
Se développe fortement. Qui sait ? Donc, voilà. Donc, effectivement, ça deviendra... un jour, tu auras probablement aussi... un usage, le Bitcoin, tu pourras l'utiliser pour aller acheter une voiture.
Bien sûr, voilà. Bah, c'est déjà le cas. Hein.
Ouais, mais enfin,
c'est sa baguette de pain. 0,0,1.
Tu auras ton Bitcoin, wallet voilà. Sur ton téléphone, là, le wallet. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, c'était un des sujets qu'on mettra peut-être en place, peut-être pas cette année, mais une autre BitConférence. On pourrait très bien utiliser, créer une monnaie virtuelle pour la boule. Et effectivement, proposer aux commerçants, avec leur wallet, donc leur portefeuille virtuel, de recevoir effectivement une monnaie bauloise, par exemple.
Voilà. Alors Pierre, j'ai encore une question, parce que vous allez être à cette Bitcoin conférence à la Baule le 5 mai prochain. Vous dirigez Paymium, P-A-Y-M-I-U-M, pour ceux qui nous écoutent, dans leur voiture. J'ai réfléchi en vous écoutant, je me disais à quoi je pourrais comparer votre métier à Paymium, Pierre. Vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas banquier, ça c'est très clair, puisqu'il n'y a pas la salle des coffres, etc. Est-ce que vous êtes en quelque sorte ce que serait à l'immobilier, un agent immobilier et un administrateur de biens ? C'est-à-dire que l'agent immobilier, il met en contact pour la transaction, il permet de trouver de faire la transaction, il fait tous les papiers, il vous met en contact avec le vendeur. Vous passez chez le notaire, donc ça c'est la blockchain, et ensuite vous êtes l'administrateur de biens.
Oui, alors on se compare plus facilement à une bourse d'échange en fait, un peu comme le Nasdaq ou Euronext pour les marchés actions. On fait un peu ce métier-là de plateforme d'échange, effectivement mise en relation d'acheteurs et de vendeurs par une plateforme internet. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent du métier d'agent immobilier qui est très très intuitif ou personnel, je dirais, qui est très personnalisé et où il y a peu d'acheteurs et peu de vendeurs finalement comparé au marché actions ou au marché crypto qui sont très très où on a par exemple chez Paymium 250 000 comptes hein, de comptes clients, donc il y a clairement une masse d'utilisateurs qui n'existe pas forcément dans les transactions immobilières, mais dans le côté, vous avez raison, dans le côté mise en relation de l'acheteur et du vendeur, c'est bien ce que fait Paymium en tant que plateforme d'échange.
Laurent, te dis, je te dis.
Bah, sur le entre guillemets comparer Paymium, effectivement, oui, c'est ça, c'est des mises en relation, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu es client, t'achètes ton Bitcoin ou ton Ethereum, et puis à un moment donné tu veux le revendre, et en face effectivement la plateforme te met en relation avec des acheteurs qui vont te racheter au cours actuel, tout simplement, la plateforme prenant sa commission comme toutes les plateformes qui prennent des commissions au passage sur les transactions.
Et puis ce qu'il y a de formidable aussi dans dans tout ça, et j'aimerais conclure là-dessus. On a vu les épisodes d'incertitude économique, les crises financières, on a vu la guerre. Ceux qui étaient en Ukraine, qui ont dû fuir leur pays pour aller ailleurs, les monnaies s'effondrent, elles ne valent plus rien dans d'autres pays. En revanche, il y a peut-être deux choses qui vont peut-être nous sauver la vie si jamais on devait avoir des gros problèmes un jour, parce que personne ne peut être à l'abri de cela. Est-ce que c'est finalement la pièce d'or et sa crypto-monnaie ? Partout dans le monde où vous irez, eh ben vous pourrez quand même être à l'abri votre famille.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne Bitcoin, par exemple, c'est quand même beaucoup plus pratique que se balader avec de l'or qui pose des problèmes de sécurité et aussi d'échange. Parce que l'intérêt de Bitcoin, c'est justement d'être échangeable sur des plateformes Internet comme Paymium. Donc, si vous vous déplacez, vous aurez toujours un interlocuteur qui sera susceptible de vous échanger Bitcoin, puisque c'est une monnaie mondiale.
L'or aussi,
aujourd'hui,
l'or aussi, Pierre.
Oui, c'est juste que l'or physique, le déplacement physique de l'or est plus, je dirais, plus risqué que de transporter un secret dans sa tête ou dans une enveloppe.
Ouais, pour rebondir sur en cas de crise grave ou autre, n'oublie pas que les banques, je crois, nous garantissent combien ? 150 000 euros maximum.
Non, 100 000.
100 000 par
et
contre.
Encore, c'est des fausses garanties puisque le taux n'est pas respecté. En réalité, on s'en sortirait avec 15 à 20 000 euros.
Voilà. Donc autant dire qu'il faut mieux avoir quelques bitcoins si possible dans sa pocket. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, personne ne peut te les piquer. Parce que justement, c'est infalsifiable que ça va être inscrit sur la blockchain et que personne ne peut, si tu ne perds pas ton mot de passe, si tu n'es pas piraté, effectivement, c'est quand même une valeur, peut-être refuge. En tout cas, il y a beaucoup aujourd'hui de gestionnaires de patrimoine qui estiment qu'on devrait, à minima, investir 5% de ces liquidités dans des crypto-monnaies et dans le Bitcoin.
Merci Laurent Serveur, merci Pierre Noisa.
Merci à toi.
Merci Ali.
C'était passionnant. On a parlé de Paymium, P-A-Y-M-I-U-M. Et vous serez tous à la boule le 5 mai pour la Bitcoin Férence.
Alors, oui. Les inscriptions, c'est pas cher du tout. Hein. La place, c'est à 9,90€ inscription sur le site paymium.fr. Et pour ceux qui veulent, on a prévu après cette table ronde de 2 heures un petit cocktail. Donc là, il y a une option pour ceux qui veulent poursuivre avec un petit cocktail pour être proche effectivement des intervenants, leur poser des questions de façon encore plus plus détendue entre guillemets. Et donc tout ça, les inscriptions, les informations sur le site bitcoinference.fr.
Bitcoin Férence, attention, c'est le jeu de mots, hein. Vous écrivez Bitcoin et ensuite juste Férence. Oui. Là, comme conférence, vous retirez le con. Hein, voilà, parce qu'à la place, c'est le Bitcoin.
C'est ça.
Bitcoinférence.fr. De toute façon, on va le mettre nous aussi. Si vous écoutez dans votre voiture et tout, on va le mettre sur le site internet. Merci à tous les deux. C'était vraiment passionnant, cette émission. Merci.
Merci.